Et voilà, donc bienvenue dans Un moment pour la Terre, cette émission mensuelle qui a lieu chaque dernier mercredi du mois de 9h15 à 10h, avec proposée et préparée et animée par des membres de France Nature Environnement 04. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Jacod.
Bonjour.
Et vous allez nous parler de SCOT. Alors, qu'est-ce qu'on appelle SCOT, ce petit nom joli, c'est assez complexe.
Joli, je ne sais pas trop. Mais... Donc, SCOT, schéma de cohérence territoriale. Voilà. C'est un outil d'aménagement. Hein. Un peu comme bon, au niveau d'une commune, assez souvent, les uns les autres savent qu'il y avait dans le temps un POS, un plan d'occupation des sols. C'était le POS. Voilà. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça, ça s'appelle PLU, un plan local d'urbanisme, ou parfois carte communale bon, pour les toutes petites communes. Quoi, voilà. Et un SCOT, ben, ça ressemble un peu par certains côtés, mais c'est un niveau géographique plus élevé. C'est un grand bassin de vie. Voilà. Donc c'est un instrument d'urbanisme au sens où ça permet de réfléchir à l'avenir, d'imaginer des solutions adaptées, etc., etc. Et puis ça a un deuxième côté, c'est pas simplement de la réflexion, c'est aussi coercitif en quelque sorte, quoi. Prescriptif on va dire, c'est comme ça qu'on dit dans le terme, dans le jargon officiel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est que ce SCOT, ce schéma de cohérence territoriale est adopté, est approuvé définitivement, etc., qu'il est en vigueur, il s'impose aux documents d'urbanisme qui sont en dessous. C'est-à-dire que d'un point de vue pratique, on discutait deux minutes avant, on parlait de surface commerciale. Si quelqu'un va implanter une surface commerciale d'importance, bien sûr, hein, pas une petite épicerie, hein, mais quelque chose d'un peu conséquent en volume, en surface, s'il va s'adresser au maire de la commune dans laquelle il voudrait faire cet investissement, bon, le maire va lui dire attendez, bah écoutez, c'est pas prévu au PLU, on n'a pas fait ça, on n'a pas pensé à ça, donc je vais voir. Et donc à ce moment-là, la logique, ce serait, si besoin, s'il pense que c'est une bonne chose, si, etc., ce serait de réviser le PLU. Mais le PLU ne pourra le réviser dans ce sens-là que si le SCOT, le schéma de cohérence qui est au-dessus, a prévu ce genre de choses. Sinon, il faut même réviser le SCOT. Voilà. Donc c'est pour dire simplement qu'un schéma de cohérence territoriale, c'est un instrument de réflexion, mais c'est aussi un instrument important qui peut bloquer, développer, etc. Et ça vaut la peine d'y réfléchir parce que ça a des incidences très fortes sur les années qui suivent. Quoi. On change pas, on révise pas un SCOT comme ça tous les deux jours. Du moins, on essaye parce que c'est cher, c'est compliqué. Enfin.
Oui, si on revient en arrière, vous me parliez d'un premier arrêté en 2004, hein, et fin 2012. Enfin, ça fait quand même pas mal de temps entre l'un et l'autre.
Voilà. C'est, bon, dans le 04, dans notre département, il y a un seul SCOT en vigueur actuellement, qui est celui de la région de Manosque, en gros de l'agglomération, enfin, pas en gros, assez précisément de l'agglomération de Manosque dans sa version antérieure. À 2013. Voilà. Donc en gros la même chose qu'actuellement, moins un Moustier et un autre Hiroumoule, un petit village à côté, et plus en l'occurrence Saint-Même qui entre-temps a quitté DLVA. Bon, c'est le seul SCOT qui existe sur ce territoire, le 04, ce qui est un peu curieux parce qu'il y a en gros une obligation sur l'ensemble du territoire national de mettre en place des SCOT.
Alors une obligation qui date de quand ?
Alors qui date, l'esprit disons, l'intention date de la création des SCOT, donc c'est 2000, l'an 2000. L'intention au sens plus marqué sur le plan politique, disons, ou national, quoi, c'est une succession de lois, les unes après les autres, qui ont indiqué qu'il fallait vraiment, il faudrait vraiment, puis ensuite il fallait vraiment, et puis ensuite il faut vraiment. Et puis, et donc la contrainte, si on ne fait pas, s'il n'y a pas de SCOT, la contrainte, c'est dans un territoire qui n'est pas couvert par un SCOT, donc une petite commune quelque part, hein, mais qui n'a pas de SCOT au-dessus, comme parapluie ou comme chapeau, c'est en principe, en théorie, vous n'avez pas le droit d'ouvrir à la construction de nouveaux territoires. Exemple, vous n'avez pas le droit de faire un lotissement à l'extérieur du bourg existant. Voilà. C'est ça la règle. Et par rapport à cette règle, évidemment, comme toutes les règles en droit en général et en droit français en particulier, il y a des possibilités de dérogation. Hein. Bon, mais qui dit dérogation dit accord des autorités qui vont délivrer ces dérogations. Dans le premier cas, s'il y a un SCOT Et si le SCOT a prévu qu'effectivement il puisse y avoir un développement, en, par exemple un lotissement, encore une fois, ou une surface commerciale, etc., dans la commune en question, ben, le PLU, le nouveau PLU, révisé éventuellement, pourra se faire sans problème. Et le maire, qui est responsable de ça, n'aura, le conseil municipal, n'aura pas à demander, pour demander des avis bien sûr, mais il n'aura pas à se soumettre à un avis autoritaire du préfet, en l'occurrence. Dans le cas où il n'y a pas de SCOT, il est soumis à cet avis. Et puis il y a avant cet avis des commissions qui se penchent sur le sujet, qui réfléchissent, etc., et qui essayent de dire oui, non, pourquoi, etc. Enfin bon, voilà. Donc ça complique le jeu. Quand on n'a pas de SCOT, c'est la vie, disons, administrative d'une commune, et par certains côtés un peu plus compliqué, quoi. Alors, sur le département, il se trouve qu'effectivement, nous n'avons qu'un seul SCOT. Il y a eu une tentative à la Seine des Alpes, dans le pays de la Seine, là-haut, mais bon, qui ne donne apparemment pas de suite actuellement, quoi. Et il y aura, là c'est une obligation aussi, et je pense que ça va se faire dans les années qui viennent, là. Il y aura évidemment un SCOT sur la nouvelle agglomération dinoise, ça va de soi. Hein. Mm-hmm. Bon, et puis sur les autres territoires, peut-être.
Voilà. Il y aura certainement, ça veut dire dans combien d'années?
Ben, monter un SCOT, c'est long, c'est compliqué. Alors on va voir un peu pourquoi, mais dans le cas de Manosque, vous citiez tout à l'heure deux dates, hein, 2004-2012, puis maintenant on est en 2017, fin 2017. Bon. En 2004, il y a eu un premier SCOT, à l'époque c'était très modeste un SCOT, hein, on indiquait juste les grandes intentions. Bon, mon souvenir, c'est qu'il y avait deux choses importantes, mais une qui était par exemple la création du centre de stockage de déchets de Valensole. C'est ça qui a permis, sur le plan disons, du droit du sol, quoi, hein, sur le plan de l'urbanisme, qui a permis de créer ce centre. Voilà. Donc ça, c'était une chose importante. Mais par contre, le reste, il n'y a pas vraiment pas grand-chose dedans. C'était une espèce d'accumulation des désirs de chacune des communes, sans plus, quoi. Bon, évidemment que 2004, c'est loin. Hein. Entre-temps, la législation a beaucoup, beaucoup changé. On s'est rendu compte au niveau national... Il suffisait de regarder, mais enfin bon, on s'en est plus rendu compte et c'est devenu une chose importante. On s'est rendu compte qu'on avait une consommation de terres agricoles en particulier, ou de terres naturelles, qui était gigantesque. Il ne pouvait pas continuer comme ça, quoi. Alors c'était vrai partout, pas dans le département en particulier, mais partout, et dans le département aussi. Regardez ce qui s'est passé sur le Val-de-Durance. Bon, je veux dire, c'est pas la peine d'être grand clair et d'avoir des grandes cartes, etc., pour se rendre compte qu'effectivement... le paysage agricole du Val-de-Durance a beaucoup, beaucoup changé en 10-15 ans. Quoi. Voilà.
Et ce qui pose problème, c'est par exemple de très bonnes terres agricoles, bien fertiles, qui finalement sont la base d'un immeuble où et ça change tout.
Ben voilà, c'est ça. Donc il y a ce côté-là, le côté agricole, qui est évidemment délicat. Il y a le côté naturel qui est également délicat, c'est-à-dire qu'on a des zones naturelles. Alors, dans 04, c'est pas ça qui manque, on va dire, hein, bien sûr, c'est clair. Mais néanmoins, elles servent à tout le monde, aux habitants du 04, mais aussi à l'ensemble de la population qui veut bien venir voir notre belle contrée. Hein. Bon, et donc, on a un devoir, disons, de les protéger, d'éviter de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faille rien faire. Bien sûr, hein. Encore une fois, il faut trouver une façon de faire intelligente, adaptée, qui n'induise pas de problèmes supplémentaires. Bon. Puis par ailleurs, il y a une autre question qui est d'ordre plus général, c'est la question des risques. Quoi. Il y a beaucoup d'endroits où il est risqué de construire parce qu'il y a des risques sismiques, là il y en a partout chez nous, mais plus précisément, il y a des risques d'inondation, ça c'est à des endroits particuliers. Dans le temps, on n'était pas très, très sensible à ce genre de choses.
Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs de construction dans le lit des rivières, sous prétexte qu'elles n'étaient pas très...
voilà. En PACA, on a été un peu pas les seuls champions, hein, mais quand même, on n'était pas mauvais, quoi, dans ce domaine-là. Bon, dans 04, il y a eu un peu moins de grands événements de cette nature, mais quand même, bon, il y a des risques de feux de forêt, etc. Enfin, bon, il y a un certain nombre de risques dont il faut tenir compte. Alors ça, c'est clair que dans les SCOT, par exemple, il y a une bonne appréciation de cet ensemble de choses-là, quoi. Mais construire un SCOT, c'est long, c'est laborieux, c'est très compliqué. Donc, entre 2004 et fin 2012, donc, la région de Manosque, hein, qui groupait à ce moment-là plusieurs communautés, hein, des petites communautés, il n'y a pas encore d'agglomération, a mis un temps fou à construire ce SCOT-là. Et à la fin, bon, quand on remet le métier... le roi Chamédi, plutôt, nommé sur le roi, 36 fois, à la fin des fins, on se dit que bon, tout compte fait, c'est pas si bien que ça, quoi. C'est assez normal, enfin, je veux dire, c'est pas très étonnant en soi. Hein.
Alors, c'est long à mettre en place, mais après, c'est long à faire valider. Quelles sont les personnes qui ont leur mot à dire dans...
Voilà. Une fois qu'on a réfléchi, hein, au niveau d'une collectivité ou d'un ensemble de collectivités, parce que c'est pas forcément une agglomération, ça peut être plusieurs communautés qui se mettent ensemble. Hein. C'est même la règle de base, c'est plutôt ça. Hein. Bon. Mais, donc ça, on travaille évidemment avec des bureaux d'études, parce que matériellement, on peut pas faire autrement, quoi. Hein. Ça, c'est un travail, ça, on pourrait dire, c'est une espèce de travail en chambre, ou en chambre, chambre ouverte quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà toutes les municipalités concernées qui sont parties prenantes, donc ça fait déjà beaucoup de monde, c'est déjà un peu compliqué. Bon. Après, au fur et à mesure, en fait, c'est pas seulement après, c'est au fur et à mesure que se construit le projet, il y a l'appel à des compétences externes une bonne partie, c'est l'État qui en dispose, hein, de ses compétences, hein. Que ce soit en termes d'habitat, que ce soit en termes d'urbanisme au sens propre, que ce soit en termes d'environnement, en termes de risque, en termes d'agriculture, etc. Et puis, il y a tout un ensemble d'organismes divers. Alors, par exemple, dans le domaine plutôt nature, il y a les parcs naturels. Hein. Alors, sur Manosque, bon, il y a à la fois le Verdon et le Luberon, il y en a deux parcs. Hein. Bon. Sur d'autres, il n'y en a qu'un seul, parfois il n'y en a pas. Il y a par exemple la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, etc., qui ont des choses à dire aussi, c'est normal, enfin, bien sûr, hein. Et puis il y a par ailleurs toutes les associations agréées, dont France Nature Environnement, puis d'autres, hein, qui peuvent intervenir pour dire bon voilà, nous on pense plutôt ci, plutôt ça, enfin, ou telle intention que vous avez manifestée, bon, bof, ça nous pose un petit peu. Il me semble qu'il y a un petit souci derrière. Ou au contraire, dans l'autre sens, dire, bon, vous manifestez une intention de faire les choses bien, mais vous ne vous donnez pas les règles qui vont permettre que ça fonctionne. Je viens, par exemple, on a eu une bonne discussion il y a plus d'un an maintenant, presque un an et demi. Hein. On avait repassé en revue toute la partie prescriptive du SCOT. Dans le SCOT, il y a un document qui s'appelle le document d'orientation et d'objectif, qui dit, alors, prescription numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, on aura, enfin, les communes, dans leur PLU, auront le droit de faire telle chose, ou pourront faire telle chose, ou devront faire telle chose, etc. Puis il y a les recommandations. Donc, on avait épluché tout ça ensemble, ça avait été, je crois, un exercice intéressant, pour dire, attention, là, bon, vous dites pourront, nous on préférait qu'on marque devront. Ou l'inverse, enfin, ça dépend des cas. Bon, voilà. Donc, bon, c'est un gros travail, mais l'ensemble est quand même basé sur des grands, comment dire, des grandes perspectives, parce qu'encore une fois, si on se dit, bon, dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas combien, qui viennent, bon, on va se développer un petit peu, on va se développer beaucoup, évidemment, la nature de ce qu'il y aura dans le SCOT sera radicalement différente, hein. Alors pour nous, c'est évidemment un point extrêmement important parce que il faut bien comprendre qu'une fois que le SCOT est établi, hein, ce que j'expliquais un peu il y a un instant, quoi, une fois que le SCOT est établi, les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme de chacune des communes, en gros, sont à l'abri, en quelque sorte, de ce parapluie. Hein. C'est à la fois une contrainte, mais en même temps, c'est comme un parapluie. On ne voit plus le soleil à travers, mais on ne voit plus la pluie non plus. Hein. Donc, cette espèce de contrainte, elle peut être un peu gênante quand on l'établit au début, c'est un peu désagréable pour les communes, hein, éventuellement, quoi. Inversement, une fois que ça existe, elle peut faire à l'intérieur de cette ombrelle, quoi, elle peut faire ce qu'elle veut. Et en gros, on n'a plus beaucoup de moyens d'intervention, les uns les autres, un petit peu, toujours, hein, bien sûr. On peut toujours donner des avis et des conseils, mais quand même. Mais bon, l'État en particulier ne peut plus beaucoup intervenir dès lors que c'est conforme. Enfin, que c'est compatible avec le SCOT, c'est le terme qu'on emploie en termes de droit d'urbanisme. Dès lors que c'est compatible avec le SCOT, il n'y a pas de... En gros, on ne va pas contre le SCOT. Ben voilà, c'est possible. D'accord. Voilà, donc c'est important. Hein. Alors, pour revenir à Manosque, donc il y avait eu un gros travail fait, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 2004-2012, un travail en longueur, etc., etc., donc, qui s'est achevé tardivement. avec bon, un peu d'incohérence, parce que, encore une fois, quand on s'y prend à 36 fois, on finit par faire des choses qui ne sont pas si bien que ça, quoi. Puis une deuxième chose, c'est qu'entre-temps, les lois au niveau national changent, évoluent, quoi. Et vous savez bien que, vous rappelez, tout le monde se rappelle, hein, du Grenelle de l'environnement, hein, 2009-2010, etc., où il y a eu une réflexion assez approfondie, forte, hein, en plus, comment dire, acceptée par tout le monde, quoi, donc intéressante. Et donc il y a eu derrière cet événement en cours du Grenelle, il y a eu des lois qui ont obligé les PLU, mais aussi les SCOT, bien sûr, à mieux et plus penser notamment les questions environnementales au sens très large du terme, quoi. Donc le SCOT tel qu'il est en vigueur actuellement n'est plus conforme au sens propre, hein, avec un certain nombre de dispositions du Grenelle de l'environnement. C'est pas dramatiquement différent, hein, bien sûr, faut pas exagérer, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut de toute façon revisiter, il faut nettoyer, quoi. Donc il y avait une nécessité de revisiter ce SCOT. Puis il y avait une deuxième nécessité qui est disons factuelle, c'est qu'entre-temps, le périmètre des communautés de communes qui existaient ont fusionné pour faire l'agglomération de Manosque, hein, des LVA. Et puis, DLVA, au passage, s'est agrandi avec deux communes supplémentaires. Puis récemment, on a perdu une. Bon, il y a une espèce de mouvement comme ça. Et donc, il y a un réajustement qui, de toute façon, s'imposait. Voilà. Donc, ils ont remis en chantier un nouveau SCOT, ce qui est bon, tout à fait intéressant et bien. Ce nouveau SCOT a été... Disons, il y a un premier projet qui a été élaboré et qui a été voté par le Conseil d'agglomération, hein. En juin 2016, donc il y a un an et quelques, quoi. Et ensuite, on rentre dans la procédure, une fois que cet objet-là, le SCOT, donc, est arrêté, voté une première fois, on rentre dans une procédure assez longue, 6 mois, un peu plus, hein, jusqu'à ce qu'il soit voté une deuxième fois, et là on dit approuvé. Hein, première fois, il est arrêté. Deuxième fois, il est approuvé.
D'accord.
Et à ce moment-là, il rentre en vigueur, sous réserve qu'il n'y ait évidemment pas de contentieux derrière, etc., etc. Puis que le préfet mette son tampon dessus pour les contrôles de légalité, quoi. Voilà. Bon. Mais dans cette période-là, entre les deux, en gros, 6 mois, un peu plus, 9 mois, je ne sais pas combien, peu importe, ça dépend un peu, il y a une obligation de demander des avis à tout un tas d'instances officielles. En gros, ce qu'on appelle les personnes publiques associées. Donc, encore une fois, l'État dans ses différents petits morceaux, quoi. Plus les chambres consulaires dont je parlais tout à l'heure, les communes avoisinantes, les communautés avoisinantes, le département, la région, les parcs naturels, etc. Et les associations agréées, pourquoi pas. Voilà. Ça se traduit ensuite. Alors, il y a une deuxième chose qui est nouvelle. Hein. Ça existait un peu, mais ça s'est beaucoup maintenant... installé au sens propre et au sens juridique, il y a maintenant une mission régionale de l'évaluation environnementale. C'est une instance indépendante de l'État, donc qui peut avoir un avis tout à fait différent de l'avis du préfet, hein, bon, voilà, qui donne un avis sur les plans, notamment le SCOT, hein, les SCOT, les PLU, hein, quand c'est important, bien sûr, qui est un avis sur des bases environnementales générales. Tous ces avis-là sont ensuite regroupés, c'est mis dans le dossier qui est soumis à enquête publique. Enquête publique, vous vous rappelez, c'est comme pour toutes les grandes décisions administratives, en fait. Hein. Avant qu'une décision soit prise, le citoyen a le droit de dire ce qu'il en pense. Et il dispose à ce moment-là de tous les éléments, des avis des uns des autres, argumentés. Hein. Les avis qui ne sont pas argumentés n'ont pas de signification, c'est clair. Hein. Mais tous ceux qui sont argumentés valent la peine d'être pris en compte. Et les citoyens... associations diverses, etc., peuvent venir dire, en plus, nous on pense que, parce que, c'est bien de dire parce qu'encore une fois, hein, ce qui n'est pas argumenté, ça ne sert à rien. Quoi, hein. Bon. Et le commissaire enquêteur, qui est donc une personne, parfois il y en a deux ou trois, hein, ça dépend un peu de la taille de l'objet, quoi, fait une synthèse ensuite, hein, et il donne un avis. Alors ça peut être un avis favorable, assez souvent un avis favorable, et il y a assez souvent... une ou deux, ou trois, ou quatre, cinq petites réserves. Alors, je dis petites parce que ça a vocation à ne pas tout changer, mais quand même, dire, attendez, sur tel point particulier, bon, visiblement, au vu des avis que j'ai reçus, etc., 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 il semble qu'il y a un petit souci et vous devriez essayer d'améliorer les choses. Alors, éventuellement, il peut faire des propositions, mais c'est pas, a priori, c'est pas son rôle. Hein, c'est plutôt dire simplement, il y a une question, là, il faut que vous la traitiez comme il faut. Pourquoi ça? C'est parce que lorsque le SCOT, en l'occurrence, mais pour un PLU, ce serait la même chose, lorsque le SCOT sera approuvé finalement, donc un petit peu après, si l'autorité en question, donc là, le conseil d'agglomération, ne tient pas compte des réserves du commissaire enquêteur, bon, il est clair que derrière, il y aura à peu près sûrement un contentieux et que le tribunal administratif dira « Attendez, il y avait une réserve, vous n'en avez même pas tenu compte, donc voilà, votre SCOT est nul et non avenu et on repart au coup d'avant. »
Au point de départ.
Donc, l'année dernière, ce qui s'est passé pour le SCOT de Manosque, c'est qu'il y a eu une série d'avis divers, après qu'il y ait eu un premier vote, donc, qui ont conduit l'agglomération à se dire « Bon, on a un problème. » Notre affaire n'est pas parfaite. Hein, il faut l'améliorer un petit peu à la marge. Mm-hmm. Alors, il y avait une série de choses, bien sûr. Hein, c'est toujours un peu compliqué. Et il y avait une grande remarque assez fondamentale qui était de dire, bon, globalement, vous partez sur une évolution en termes de besoin de surface à urbaniser. C'est-à-dire, derrière ça, une perspective de développement, etc., quoi. Qui est visiblement un peu exagéré, quoi. Et puis, il y avait un certain nombre d'autres remarques. Alors, j'étais assez content, parce qu'en gros, c'était les remarques qu'on avait faites. Donc, bon, l'un dans l'autre, on s'est dit qu'on n'était pas les seuls à penser ce qu'on pensait, quoi. Au niveau de France Nature Environnement, bon, il y avait donc des perspectives en termes de démographie, et donc derrière de construction de logements, et donc derrière d'espaces utilisés, également en termes de zones d'activité, etc., qui étaient, bon, un peu, enfin, assez franchement surévaluées, quoi. Et ça, en plus, sur une durée extrêmement longue. C'est-à-dire en principe, lorsqu'on établit un document comme ça, on dit, bon, on réfléchit à une certaine échéance. C'est logique. Enfin, on ne peut pas réfléchir à 5 ans ou réfléchir à 10 ans ou à 20 ans. Hein, c'est pas la même chose, quoi. Alors, plus c'est loin, évidemment, plus il y a des incertitudes. C'est la boule de cristal, ça c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de reproche à faire à quiconque. Personne n'est capable de dire, actuellement, je sais pas, on est 10 000 habitants ou 50 000 habitants ou 300 000 habitants et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on sera X. Et bon, évidemment que ça, c'est difficile. Mais bon, il faut quand même être un peu raisonnable. Alors, sur ce plan-là, il se trouve, je ne sais pas, ça se voit fréquemment ailleurs, mais de manière, oui, on peut dire même de manière très très générale, quand une collectivité réfléchit à son développement, elle voit toujours, midi à sa porte en gros, elle voit toujours un développement absolument majestueux, etc. Alors, dans un certain nombre de régions qui sont plutôt un peu en déshérence, je ne sais pas, prenons l'Est, le Nord, etc., de notre pays, quoi. Bon, je ne sais pas très bien comment c'est, vraisemblablement c'est plus modeste, mais ici en tout cas, il y a une volonté ou une imagination, je ne sais pas trop, qui est un peu démesurée. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on est un village à 100 habitants, dans 10 ans, ben, on sera 110, 120, allez, 130, hein, pourquoi pas. Hein. Mm-hmm. Alors, c'est tout petit, 30 personnes de plus que ça représente, c'est tout petit, bien sûr. Hein. Quand on est 1000, on dit, ben, bon, alors, on n'exagère pas autant, on ne dit pas 1300, hein, on ne mm-hmm. dit pas 1200, mais on dit 1100, etc. Mm-hmm. Quoi. Si on accumule tous ces chiffres-là, moi, je me suis bien promis un jour, quand j'aurai un petit peu de temps, je sais pas, de reprendre toutes les perspectives que les différentes communes affichent, et lorsque c'est déjà un SCOT, pas tellement pour vérifier, mais pour les mettre sur une carte et puis faire la somme pour voir. Hein. Faut savoir que notre département s'est passablement développé dans les années en termes de population, bon, et donc de logement, etc., etc. Bien sûr, tout ça est évidemment accroché. Hein. Pendant le début des années 2000, hein, jusqu'à la crise, je ne sais pas si c'est un rapport avec la crise, encore une fois, mais il se trouve que jusqu'en 2008-2009, dans ces eaux-là, on a connu effectivement un développement assez rapide. Hein. Bon, ce développement-là, c'est complètement calmé. Hein. En l'occurrence, le département a plutôt perdu de la population la dernière année, hein, disponible. Bon, donc on a changé de monde. Et c'est vrai au niveau du département, c'est vrai au niveau de l'ensemble de la région. La région, il y a 5-6 ans, on disait, bon, on est presque 5 millions, on va être forcément 5 millions et quelques très bientôt, etc., etc. Ben, c'est plus vrai. C'est pas comme ça que les choses se passent actuellement. Ça peut changer, ça peut revenir. Hein. Ça peut être le contraire aussi. Hein. C'est pas tout à fait par hasard, quand même, si tout ça évolue. Donc, de manière un peu systématique, c'est pas simplement les Manosques, enfin, le territoire de Manosque au sens large. C'est vrai à peu près partout. À peu près tout le monde imagine toujours des choses qui sont un peu grandioses, un peu plus grandioses que la réalité, probable, raisonnable. Hein. Voilà. Donc, à Manosque, c'était assez caricatural. Dans les tout premiers travaux, dans les années après 2004, donc hein, en gros entre 2004 et 2010, par là, disons 2010 pour simplifier, l'idée à ce moment-là, c'était de dire on va avoir 15 000 habitants de plus. En gros, la région de Manosque, maintenant, c'est 60 000 habitants, hein, l'ordre de grandeur. Hein, un peu plus, un peu moins, peu importe. Ouais, actuellement, un petit peu plus, mais bon. Ayez ça en tête, 60 000 habitants. On va avoir 15 000 habitants de plus, 15 000 par rapport à 60 000, c'est un quart, hein, c'est gigantesque. Quoi. On va avoir 15 000 habitants de plus en 10 ans. C'était le premier. C'était complètement délirant, enfin, c'est clair. Bon, on était beaucoup intervenu là-dessus. Ça s'est changé après en 15 000 habitants de plus en 20 ans. Mmh. Bon, c'est deux fois moins quand même. Hein. Mmh. Bon, c'était bon, à peu près un peu plus raisonnable. En 2016, lorsqu'on nous a présenté le nouveau projet de Scott, là, c'était plus 20 ans, c'était 18 ans, enfin, peu importe, c'était à peu près les mêmes ordres de grandeur. C'était remonté à 19 000 habitants de plus. Alors qu'on commençait à avoir des chiffres, parce qu'encore une fois, les données arrivent toujours avec du retard, ça c'est normal, on ne peut pas observer la réalité avant qu'elle se soit déjà réalisée, et puis qu'on ait eu le temps de la regarder, quoi. Donc on commençait à avoir des informations assez précises sur le fait que ce mouvement du début des années 2000, qui avait été assez impressionnant de développement local, quoi, ce mouvement était en train de se tarir, quoi. Bon... Donc ça, c'était une critique forte qui a été faite l'année dernière, à cette époque-ci, à peu près, hein, pour dire, bon, attendez, vous n'êtes pas raisonnable, vous visez trop. Hein. Donc, dans le nouveau projet, on ne nous dit plus 19 000, on nous dit plus 14 500. Bon, pourquoi pas. Moi, personnellement, je pense que c'est encore deux fois plus que la réalité, si on projette un petit peu des choses assez raisonnables par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais bon, après tout, tout le monde peut se tromper, et puis on peut faire des paris. Mais une fois qu'on est passé de 19 000 à 14 000, il ne suffit pas de changer ce chiffre-là, il faut changer derrière tout un tas de chiffres et tout un tas de besoins. Par exemple, on transforme après cette population en besoin en logement. Et là, cette transformation dans l'actualisation, disons, du projet de Scott 2016 pour faire un Scott 2017, on va l'appeler comme ça pour parler facilement, quoi. Bon, cette actualisation, elle a été faite en partie, mais pas complètement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été remises à jour pour tenir compte de cette inflation un peu moins rapide, quoi. Mais pas tout. Hein. Par exemple, sur la construction, à moitié, mais pas, elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Sur le besoin en surface industrielle, disons, effectivement, ils ont un peu tenu compte, mais pas complètement. Donc, c'est, je dirais pas ni fait ni à faire parce que ça paraît très négatif, hein, mais ils sont pas allés jusqu'au bout, quoi. Il faut aller un peu plus loin, je pense. Donc on a fait un certain nombre de suggestions dans ce domaine-là pour dire attention, sur tel point particulier, bon, réajuster encore un petit peu, vous allez dans le bon sens, c'est clair, hein, mais allez peut-être jusqu'au bout du raisonnement, et pas, vous arrêtez pas au milieu, quoi. C'est un peu bête, quoi, de penser d'un côté, quoi. Bon, ça c'est une première chose, et puis alors il y a une deuxième chose qui est assez caricatural par certains côtés, quoi. Dans le Scott précédent, donc celui qui est en vigueur actuellement, il y avait eu un effort de fait un peu douloureux, je pense, ça devait être difficile, pour préciser commune par commune, hein, sur les 20 et quelques communes, 26 je crois à l'époque, de préciser commune par commune les objectifs, quoi, avec une marge bien sûr d'incertitude, hein, encore une fois, personne ne peut savoir vraiment ce qui va se passer, hein. Bon. Mais c'était fait commune par commune. Là, ils ont décidé de faire ça simplement par strate, par couche, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils traitent la ville de Manosque même d'un côté. Bon, ça, on peut comprendre, c'est logique. Hein. Puis ensuite, ils font des catégories, en gros, de moyennes, de petites et de toutes petites communes, pour simplifier, quoi. Hein. Bon, c'est un raisonnement qui se tient. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Sauf que si on va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à dire, à la fin des fins, ça sera dans telle commune tant pour cent, dans telle commune tant pour cent, pour des raisons qui vont bien, on laisse la porte ouverte, en fait, ce que j'appellerais les communes les plus agiles, c'est-à-dire celles qui vont tout de suite rentrer dans le jeu pour réviser leur plan local d'urbanisme, hein, et qui vont accaparer, bon, le terme est un peu fort, hein, mais vous voyez, c'est de l'idée, quoi, hein, qui vont accaparer le potentiel que leur donne le SCOT, les possibilités que leur ouvre le SCOT, en laissant une part congrue, disons, aux autres communes qui se diront simplement 5 ans plus tard, tiens, au fait, je pourrais peut-être réviser mon PLU, etc. Donc, il y a une espèce d'ouverture, je dirais, de laxisme à ce niveau-là, quoi, qui est, je crois, dangereux, enfin, préjudiciable, quoi. Bon, voilà, donc là, c'est une chose qui, à mon sens, ne va pas. Il faut qu'il fasse un effort là-dessus. On n'est pas les seuls à avoir demandé ça. La mission régionale d'évaluation environnementale a demandé la même chose, en disant, bon, c'est quand même pas très raisonnable de laisser la porte ouverte comme ça, parce qu'on ne va rien maîtriser. Hein. D'autant plus que ce SCOT vaudrait normalement pour une période qui est très très longue. 18 ans, c'est très très long, quoi. 18 ans en arrière, vous imaginez, c'est en 2000. Bon, même un peu avant 2000, quoi. C'est vraiment... pas hier, hein, c'est avant-hier, quoi, hein. Il s'est passé tellement de choses depuis, quoi, hein. Et puis il y a une autre chose qui va pas aussi. Lorsqu'on mène cette réflexion en disant, bon, c'est plutôt dans telle commune, dans tel type de commune que beaucoup de développement ou un peu de développement ou pas de développement se fera, etc., etc., pour des bonnes raisons qu'on explique. Bon. Okay. Alors par exemple, il est dit, il faudrait qu'on arrive à... que le SCOT permette ou incite fortement à ce que le développement se concentre, pas se concentre sur Manosque, mais disons qu'on respecte un peu la part, disons, relative de Manosque, la ville de Manosque, la ville-centre, par rapport au reste. Alors, ce raisonnement-là, en gros, il est assis sur une idée qu'on partage a priori, qui est de dire, bon, c'est vrai que l'activité économique, elle est concentrée fortement à Manosque. Hein, c'est un fait objectif. Et dans la réalité future, on imagine que ça va continuer à se faire comme ça. Bon. Si l'activité économique est centrée à Manosque, il vaut mieux éviter, d'une certaine façon, que les gens aillent habiter, les gens qui travaillent, il y a quand même un certain nombre, ça concerne quand même l'essentiel des familles, quoi, que les gens aillent habiter à 20 km, 30 km, etc., 40 km. La DLV, c'est grand, hein, en termes de géographie. Hein. Bon. Donc, se dire qu'il faut qu'on arrive à faire au moins que Manosque continue à garder une part, disons, de l'ensemble du territoire, qui soit au moins constante ou quelque chose comme ça, ça nous paraît une bonne idée. Mais quand on regarde sur le passé récent, c'est quelque chose comme ça qui s'est passé en termes de construction de logements. C'est-à-dire qu'en gros, la ville de Manosque, sur les 5-6 dernières années, 40% de la construction qui s'est faite sur DLVA s'est faite à Manosque. Très bien, ça va. C'est parfait. Sauf que quand on regarde après ce qui se passe en termes d'occupation, c'est-à-dire, est-ce que ce qui a été construit sert à quelque chose? Ça peut servir à quoi? Ça peut servir à faire une des résidences principales occupées par des gens, des locataires ou des propriétaires, peu importe. Bon, ça, évidemment, très bien. Ça peut servir à faire des résidences secondaires. Bon, alors, Manosque, c'est marginal, une évidence, hein. Ailleurs, c'est pas quand même marginal, ça dépend des endroits, quoi. Et puis, ça peut servir aussi à faire, directement ou indirectement, du logement vacant. Directement, on a connu ça à Manosque pendant des années et des années, quand il y a eu un grand boom de développement, de construction plutôt. Hein. On a eu beaucoup de constructions qui ont été construites et qui sont restées vides pendant des années et des années. Hein.
Ah oui.
Hein, sur la zone sud, enfin, entre le bourg ancien de Manosque, disons, et puis en dessous de l'ex-national 96, enfin de 4096 maintenant. Bon, ça a été, c'est quelque chose qui s'est passé objectivement, quoi. Bon, ce qui se passe plus sans doute maintenant, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les constructions neuves, elles sont de qualité, etc., etc., donc elles sont occupées. Et c'est au détriment des constructions anciennes. Bon, et sans doute du centre, en particulier de Manosque, qui continue un peu à se vider, quoi. Donc, si une bonne partie, en gros, la moitié, hein, des constructions, même un peu plus que la moitié des constructions neuves, finalement, ont conduit, soit directement, soit indirectement, je pense surtout indirectement, a augmenté de façon très substantielle le nombre de logements vacants. En gros, 600 logements vacants de plus sur les 5-6 dernières années, ce qui est énorme, c'est gigantesque. Alors par rapport à ça, le SCOT ne peut pas dire, ni un PLU ne peut dire, il n'y aura plus de logements vacants, ça n'a pas de sens. Ça se passe comme ça se passe, hein, voilà. Mais simplement, on peut se donner des éléments pour éviter ça. Alors, une des façons de faire, ce serait de dire, bon, il ne peut y avoir de construction... Là, je schématise, j'exagère, bien sûr, mais c'est pour faire comprendre, quoi. Il ne peut y avoir de construction dans les villages autour, dans les villes autour de Manosque, qu'à condition qu'à Manosque, ça se passe comme il faut. C'est-à-dire que s'il y a construction, ça ne se traduit pas en logement vacant. Mais à partir du moment où vous ouvrez la possibilité de construire assez facilement, pour moins cher en plus, parce que c'est comme ça, et puis un peu plus à la campagne, avec des terrains qui sont forcément un peu plus grands parce qu'on n'est pas en ville, etc., etc., dans les villages autour, dans les villes, petites villes autour, ou dans les villages autour, ben, vous faites une espèce d'appel d'air qui fait que à Manosque, on peut éventuellement continuer à construire, mais ce n'est pas pour autant que ça se remplit. Donc il y a là un gros, moi, personnellement, au niveau de FNE, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, quoi. Ça n'a pas été compris. Le mécanisme qui est en place, c'est un mécanisme malsain que le SCOT ne permettra pas, parce qu'il ouvre un peu partout, un peu trop, et sur une période tellement longue que ça laisse la possibilité, encore une fois, aux gens les plus agiles, mais vous voyez bien le terme, ce que ça veut dire, hein, les gens qui ont bien compris qu'il allait se passer quelque chose et qui vont en profiter, quoi. Voilà, pour faire des choses qui, en fait, pour eux-mêmes, seront peut-être très bien, encore une fois, hein, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, mais pour la collectivité, pour le territoire dans son ensemble, seront un peu, enfin, risquent d'être négatives. Voilà. Donc voilà, un certain nombre de critiques qu'on a pu faire, et sur lesquelles on continuera à discuter, bien entendu, hein, tout ça est bien ouvert, quoi. Hein.
Donc là, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez fait des suggestions de révision par rapport à la folie des grandeurs.
Oui, en gros, on va dire comme ça, oui. Puis des choses plus dans le détail, un petit peu, quoi, bien sûr. Hein. Voilà, donc on a envoyé une série de suggestions et le conseil communautaire d'Elvia devait se réunir fin septembre, bon, je ne sais pas la date exacte, mais maintenant, quoi, en gros, pour approuver donc le projet 2017. Alors, peut-être qu'ils auront tenu compte d'un certain nombre de nos suggestions, je ne sais pas. Possible, j'espère. Sinon, on continuera de toute façon à essayer de faire avancer nos idées dans les mois qui viennent, quoi.
Parce que les conséquences par rapport à France Nature Environnement, par rapport à l'environnement...
Les conséquences, c'est toujours au deuxième degré. Hein, parce que, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on ouvre des droits à construire, bon, assez souvent, pas toujours, hein, mais assez souvent, les droits à construire sont utilisés. Ils ne sont jamais utilisés à plein, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie de vendre leur terrain pour construire, parce qu'ils se disent que plus tard, ça serait mieux pour un tas de raisons personnelles, etc. Bon, tout ça, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Hein. Bon. Mais néanmoins, dès qu'on ouvre des droits, les terrains se stérilisent, en gros. Hein. C'est-à-dire que un agriculteur, si c'est sur des terres agricoles, actuellement agricoles ou anciennement agricoles, un agriculteur ne va pas investir en se disant « bon, ce terrain-là, je vais en faire quelque chose pour de vrai parce que je pense raisonnablement que sur les 10 ans qui viennent, sur les 15 ans qui viennent, il va être agricole. » Non, je sais que dans un an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, je ne sais pas trop, il va se transformer. Donc bon, voilà. Donc il y a un problème aussi, voilà. Lorsqu'il s'agit de terres naturelles, encore une fois... Ça dépend des cas, quoi. Alors, sur l'état naturel, assez souvent, les communes n'empiètent pas beaucoup, beaucoup, parce que si les terres sont naturelles et qu'elles ne sont pas agricoles, c'est assez souvent parce que soit le relief ne se prête pas vraiment à l'agriculture, ça ne veut pas dire qu'il se prête beaucoup à l'urbanisation non plus. Hein. Enfin, ça induit des coûts pour faire les routes, etc. etc. Donc, bon, la démarche porte plutôt, enfin, très général, porte plutôt sur de l'agricole, en fait, plus que sur du naturel. Sauf quelques exceptions, par exemple des parcs photovoltaïques, qui sont eux plutôt faits en milieu naturel actuellement. Il y a des volontés apparemment au niveau du SCOT, mais là c'est pas bien clair, il y a un truc qui est un peu obscur. En gros, le SCOT imagine, dans le texte qu'on a pu voir, hein, encore une fois ça a pu changer et ça pourra changer dans le futur, hein, en gros 700 hectares, je crois, de potentialité, disons, de potentialité, hein. C'est pas dire que ça va se faire ni tout de suite, ni peut-être jamais, quoi, hein. Mais de potentialité d'espace pour des projets photovoltaïques. À terre, bien sûr. Hein. Je parle pas du photovoltaïque qu'on met sur les toits d'entreprises, etc. etc. Hein. Ça, y a, évidemment, on est a priori d'accord là-dessus, si c'est pas juste en face de la cathédrale, machin, etc. quoi, bon. Mais voilà. 700 hectares, c'est pas mal. Dans d'autres documents, on voit apparaître 1500 hectares. Donc il y a une ambiguïté là-dessus, mais bon, ça va se résoudre d'une façon ou d'une autre. C'est pas rien quand même tout ça. Hein. C'est éparpillé dans toute une série de villages divers. Bon, dans le détail, il faudra voir. Non, on n'a pas réussi pour le moment à bien voir précisément où ça se situait, comment ça se situait, etc. Bon, encore une fois, on n'est pas contre sur le principe, hein, mais dans des conditions, il faut voir, quoi, à chaque fois, quoi.
Donc pour résumer, aujourd'hui, où est-ce qu'il en est ce SCOT sur la DLVA ?
Ben, je crois qu'il est bien avancé, qu'il est mieux avancé que le SCOT précédent. Je crois que c'est sensiblement mieux, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore un petit effort à faire, hein, de conviction. Je sais pas, c'est dans la tête, hein, des gens. Les gens ont du mal à imaginer que c'est pas parce qu'il y a eu tout d'un coup un développement assez extraordinaire pendant 7-8 ans. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mm-hmm. Encore une fois, la période des années 90, je sais pas, les gens oublient, mais la période des années 90, c'était au contraire une période de stagnation. Hein, à Manosque comme ailleurs. Hein, c'est pas propre à Manosque. Hein. Bon, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas. Alors, encore une fois, personne ne sait l'avenir, bien sûr. Mais partir sur l'idée que ce qu'on a connu juste l'avant-veille va forcément se reproduire dans les jours qui viennent, etc., je crois que c'est une idée qui n'est pas raisonnable. Enfin, et si jamais il y avait de tout d'un coup un gros boom de nouveau en termes d'expansion, etc., économique, j'imagine, et puis derrière de besoin en logement correspondant à un développement économique. Parce que si c'est pour faire des logements avec des gens qui sont chômeurs parce qu'il n'y a pas de boulot sur place ou qui doivent aller jusqu'à Aix ou à Marseille, je veux dire, tout ça n'est pas raisonnable. Hein. Enfin, c'est pas sérieux. Quoi, hein. Bon, si jamais ça se produit, encore une fois, le SCOT, ça se révise. C'est pas un drame en soi. Hein. Il y a plein de SCOT qui ont une durée de vie a priori de 6-7 ans, parce que de toute façon un SCOT est obligatoirement évalué au bout de 6 ans. Si le législateur a prévu ça, c'est bien parce qu'il se dit que quelque part en 6 ans il peut se passer des choses.
Hein. Des réajustements à faire.
Il faut réajuster, voilà, c'est ça, oui. Ça serait mieux de réajuster à la hausse plutôt que de constater après que finalement il n'y avait pas besoin de tout ça et que ça a induit tout un tas de. Enfin, un grand nombre de PLU qui tout d'un coup sont devenus très permissifs. Hein. Ce qui fait qu'après on a du mitage un peu à droite à gauche, etc., des choses qui sont pas très astucieuses, quoi, globalement. Voilà.
Ça va être le moment de se quitter. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer ?
Oh, ben, qu'on est prêt, évidemment, bien sûr, à la discussion, et que c'est de la discussion que sortent les bonnes solutions, toujours.
Hein. D'accord. Voilà. Michel Jacod, merci. Et puis, bien, on précise que cette émission sera mise en ligne sur notre site à Digne, mais aussi à Manosque, sur Fréquence Mistral Manosque. Merci à vous. Et puis, à bientôt, le mois prochain, avec France Nature Environnement pour une prochaine émission, le dernier mercredi du mois. Au revoir.
Au revoir.